Chapitre 9. D'habitude, leurs fâcheries ne duraient guère, fondues à un peu de musique, aux câlines effusions de Fanny. Mais cette fois, il lui en voulut sérieusement, et plusieurs jours de suite garda le même pli au front, le même silence de rancune, s'installant à dessiner sitôt les repas, se refusant à toute sortie avec elle. C'était comme une honte subite de l'abjection où il vivait. La crainte de rencontrer encore la petite Charrette montant l'allée et ce limpide sourire de jeunesse auquel il songeait constamment. Puis, avec un brouillement de rêves qui s'en va, de décors qui se cassent pour les changements à vue d'une féerie, l'apparition devint confuse, se perdit dans son lointain de bois, et Jean ne la revit plus. Seulement, il lui resta un fond de tristesse, dont Fanny crut savoir la cause et résolut d'avoir raison. « C'est fait !» lui dit-elle un jour toute joyeuse. « J'ai vu des chelettes. Je lui ai rendu l'argent. Il trouve comme toi que c'est plus convenable ainsi. Je me demande pourquoi, par exemple. Enfin, ça y est. Plus tard, quand je serai seul, il pensera aux petits. Es-tu content, m'en veux-tu toujours ?» Et elle lui raconta sa visite rue de Rome, son étonnement de trouver au lieu du caravansérail bruyant et fou, traversé de bandes en délire, une maison bourgeoise, paisible, gardée d'une consigne très sévère. Plus de galas, plus de bals masqués. Et l'explication de ce changement, dans ces mots à la craie que quelques parasites éconduits et furieux avaient écrit sur la petite entrée de l'atelier, fermée pour cause de collage. Et c'est la vérité, mon cher. Deschelettes, en arrivant, s'est toqué d'une fille de skating, Alice Doré. Il l'a prise avec lui depuis un mois en ménage, absolument en ménage. Une petite femme bien gentille, bien douce, un joli mouton. Ils font guère de bruit à eux deux. J'ai promis que nous irions les voir. Ça nous changera un peu du corps de chasse et des barcaroles. C'est égal, dit donc le philosophe avec ses théories. Pas de lendemain, pas de collage. Oh, je l'ai joliment blagué. Jean se laissa conduire chez Deschelettes qu'il n'avait pas revu depuis leur rencontre à la Madeleine. On l'eut bien surpris alors, en lui disant qu'il en arriverait à fréquenter sans dégoût ce cynique et dédaigneux amant de sa maîtresse, à devenir presque son ami. Dès la première visite, lui-même s'étonnait de se sentir si à l'aise, charmé par la douceur de cet homme au bon rire d'enfant dans sa barbe de cosaque, et d'une sérénité d'humeur que n'altéraient pas les cruelles crises de foi qui plombaient son teint et le tour de ses yeux. Et comme on comprend bien la tendresse qu'il inspirait à cette Alice dorée, aux longues mains molles et blanches, à l'insignifiante beauté blonde, que relevait l'éclat de sa chair de flamande, aussi dorée que son nom, de l'or dans les cheveux, dans les prunelles, frangeant les cils, pailletant la peau jusque sous les ongles. Ramassée par Deschelettes sur l'asphalte du skating, parmi les grossièretés, les brutalités de la traite, les tourbillons de fumée que l'homme crache avec un chiffre dans le maquillage de la fille, la politesse de celui-ci l'avait attendrie et surprise. Elle se retrouva femme, de pauvre bétail à plaisir qu'elle était, et quand il voulut la renvoyer au matin, conformément à ses principes, avec un bon déjeuner et quelques louis, elle eut le cœur si gros, lui demanda si doucement, si désirément, « Garde-moi encore !» qu'il ne se sentit pas le courage de refuser. Depuis, moitié respect humain, moitié lassitude, il tenait sa porte close sur cette lune de miel de hasard, qu'il passait au frais et au calme de son palais d'été si bien aménagé pour le confortable. Et ils vivaient ainsi, très heureux, elle de ses égards tendres qu'elle n'avait jamais connus, et lui du bonheur qu'il donnait à ce pauvre être et de sa reconnaissance naïve, subissant aussi, sans qu'il s'en rendît compte et pour la première fois, le charme pénétrant d'une intimité de femme, le mystérieux sortilège de la vie à deux, dans une conformité de bonté et de douceur. Pour Gossin, l'atelier de la rue de Rome fut une diversion au milieu bas et mesquin où traînait sa vie de petit employé en faux ménage. Il aimait la conversation de ce savant au goût d'artiste, de ce philosophe en robe persane, légère et lâche comme sa doctrine, ses récits de voyage que Deschelette esquissait avec le moins de mots possible, et si bien à leur place parmi les tentures orientales, les bouddhas dorés, les chimères de bronze, le luxe exotique de ce hall immense où le jour tombait d'un haut vitrage, vraie lumière de fond de parc, remuée par le feuillage grêle des bambous, les palmes découpées des fougères arborescentes, et les énormes feuilles de Stryggia mêlées à des philodendrons aux minces flexibilités de plantes d'eau, cherchant l'ombre et l'humide. Le dimanche surtout, avec cette large baie sur une rue déserte du Paris d'été, le frisson des feuilles, l'odeur de terre fraîche au pied des plantes, c'était la campagne, le sous-bois, presque autant qu'à Chaville, moins la promiscuité et la trombe de Théma. Il ne venait jamais de monde. Une fois pourtant, Gossin et sa maîtresse, arrivant pour dîner, entendirent dès l'entrée l'animation de plusieurs voix. Le jour baissait, on prenait le raquis dans la serre, et la discussion semblait vive. Et moi, je trouve que 5 ans de Mazas, le nom perdu, la vie détruite, c'est assez payé cher, un coup de passion et de folie. Oh, je signerai votre pétition, Deschelette. C'est caudal, dit Fanny tout bas en tressaillant. Quelqu'un répondait avec la sécheresse cassante d'un refus. Moi, je ne signe rien, n'acceptant aucune solidarité avec ce drôle. Oh, la gournerie maintenant. Et Fanny, serrée contre son amant, murmurait. Oh, allons-nous-en, si ça t'ennuie de les voir. Oh, pourquoi donc, mais pas du tout. En réalité, il ne se rendait pas bien compte de l'impression qu'il aurait à se trouver en face de ces hommes, mais il ne voulait pas reculer devant l'épreuve, désireux peut-être de savoir le degré actuel de cette jalousie qui avait fait son misérable amour. « Allons, » dit-il, et ils se montrèrent dans une lumière rose de fin de jour, éclairant les crânes chauves, les barbes grisonnantes des amis de Deschelette, jetés sur les divans bas, autour d'une table d'Orient en escabeau, où tremblait dans 5 ou 6 verres, la liqueur anisée et laiteuse qu'Alice était en train de verser. Les femmes s'embrassèrent. Vous connaissez ces messieurs, Gossin ? Demanda Deschelette au mouvement berceur de son fauteuil à bascule. S'il les connaissait. Deux au moins lui étaient familiers, à force d'avoir dévisagé pendant des heures leurs portraits aux vitrines de célébrités. Comme il l'avait fait souffrir. Quelle haine il s'était senti contre eux. Une haine de succession, une rage à sauter dessus, à leur manger la figure lorsqu'il les rencontrait dans la rue. Mais Fanny disait bien que cela lui passerait. Maintenant, c'était pour lui des visages de connaissance, presque des parents, des oncles lointains qu'il retrouvait. « Toujours bon, le petit !» dit Caudal, allongé de toute sa taille géante et tenant un écran au-dessus de ses paupières pour les garantir du vitrage. « Et Fanny, voyons !» Il se leva sur le coude, cligna des yeux d'expert. La figure tient encore, mais la taille, tu fais bien de la ficeler. Enfin, console-toi, ma fille. La gourderie est encore plus gros que toi. Le poète pinça dédaigneusement ses lèvres minces. Assise à la turque sur une pile de coussins, depuis son voyage en Algérie, il prétendait ne pouvoir se tenir autrement. Énorme, empâté, n'ayant plus d'intelligent que son front solide sous une forêt blanche et son dur regard de négrier, il affectait avec Fanny une réserve mondaine, une politesse exagérée, comme pour donner une leçon à Caudal. Deux paysagistes à tête hâlée et rustique complétaient la réunion. Eux aussi connaissaient la maîtresse de Jean. Et le plus jeune lui dit dans un serrement de main: Deschelettes nous a raconté l'histoire de l'enfant. C'est très gentil ce que vous avez fait là, ma chère. Oui, fit Caoudal à Gossin. Oui, très chic l'adoption. Pas province du tout. Elle semblait embarrassée de ses éloges quand on buta contre un meuble dans l'atelier obscur et une voix demanda: Personne? Et Deschelettes dit: Ah, voilà les anneaux. Ah, celui-là, Jean ne l'avait jamais vu, mais il savait quelle place ce bohème, ce fantaisiste, aujourd'hui rangé, marié, chef de division aux Beaux-Arts, avait tenu dans l'existence de Fanny Legrand, et il se souvenait d'un paquet de lettres passionnées et charmantes. Un petit homme s'avança, creusé, desséché, la démarche raide, qui donnait la main de loin, tenait les gens à distance par une habitude d'estrade, de figuration administrative. Il parut très surpris de voir Fanny, surtout de la retrouver belle après tant d'années. Tiens, Sapho! Et une rougeur furtive égaya ses pommettes. Ce nom de Sapho, qui la rendait au passé, la rapprochait de tous les anciens, causa une certaine gêne. Et monsieur d'Armandy, qui nous l'a amené? Fit Deschelettes vivement pour prévenir le nouveau venu. Et Zano salua. On se mit à causer. Fanny, rassurée de voir comme son amant prenait les choses, et fière de lui, de sa beauté, de sa jeunesse, devant des artistes et des connaisseurs, se montra très gaie, très en verve. Tout à sa passion présente, à peine se souvenait-elle de ses liaisons avec ces hommes. Des années de cohabitation, pourtant, de vie en commun, où l'empreinte se fait d'habitude, de manie, gagnées à un contact, et lui survivant jusqu'à cette façon de rouler les cigarettes, qu'elle tenait des anneaux, comme sa préférence du job et du Maryland. Jean constatait, sans le moindre trouble, ce petit détail qui l'eût exaspéré jadis, éprouvant à se trouver aussi calme la joie d'un prisonnier qui a limé sa chaîne et sent que le moindre effort lui suffira pour l'évasion. Ah, ma pauvre Fanny, disait Caudal d'un ton blagueur en lui montrant les autres. Quel déchet! Sont-ils vieux? Sont-ils aplatis? Il n'y a que nous deux, vois-tu, qui tenions le coup. Fanny se mit à rire. Ah, pardon, colonel, on l'appelait quelquefois ainsi à cause de ses moustaches. C'est pas tout à fait la même chose, je suis d'une autre promotion. Caoudal oublie toujours qu'il est un ancêtre, dit la gournerie. Et sur un mouvement du sculpteur qu'il savait toucher au vif. Médaillé de 1840, cria-t-il de sa voix stridente. C'est une date, mon bon. Il restait entre ces deux anciens amis un ton agressif, une sourde antipathie qui ne les avait jamais séparés, mais éclatait dans leurs regards, leurs moindres paroles, et cela depuis 20 ans, du jour où le poète enlevait sa maîtresse au sculpteur. Fanny ne comptait plus pour eux. Ils avaient l'un et l'autre couru d'autres joies, d'autres déboires. Mais la rancune subsistait et creusait plus profonde avec les années. Regardez-nous donc tous les deux et dites franchement si c'est moi qui suis l'ancêtre. Serré dans le veston qui faisait saillir ses muscles, Caudal se campait debout, la poitrine cambrée, secouant sa crinière flamboyante, où ne se voyait pas un poil blanc. Médaillé de 1840, 58 ans dans 3 mois, et puis qu'est-ce que ça prouve? Est-ce l'âge qui fait les vieux? Il n'y a qu'à la Comédie française et au conservatoire que les hommes bafouillent à la soixantaine en branlant la tête et petonnent le dos rond, les jambes molles avec des accents séniles. À 60 ans, sacrebleu, on marche plus droit qu'à 30, parce qu'on surveille, et la femme vous gomme encore, pourvu que le cœur reste jeune, échauffe et remonte toute la carcasse. « Quoi tu ?» dit la Gournerie, qui regardait Fanny en ricanant, et Deschelette avec son bon sourire. « Pourtant, tu dis toujours qu'il n'y a que la jeunesse, tu en rabâches. » C'est ma petite Cousinard qui m'a fait changer d'idée. Cousinard, mon nouveau modèle, 18 ans, des ronds, des fossettes partout, un collodion. Et 6 bons enfants, 6 peuples, du Paris de la Halle où sa mère vend de la volaille. Et vous êtes ces mots bêtes à l'embrasser, un de ces mots. L'autre jour, dans l'atelier, elle trouve un roman de Dejoie, regarde le titre, Thérèse. Elle rejette avec sa jolie moue. Oh, si c'était appelé pauvre Thérèse, je l'aurais lu toute la nuit. Oh, j'en suis fou, je vous dis. Ah, du coup, te voilà en ménage, et dans 6 mois encore, une rupture des larmes, comme le poing, là, le dégoût du travail, les colères à tout tuer. Le front de Caudal s'assombrit. C'est vrai que rien de dur, on se prend, on se quitte. Alors pourquoi se prendre? Eh bien, et toi, crois-tu donc que t'en as pour la vie avec ta flamande? Oh, nous autres, nous ne sommes pas en ménage. Pas vrai, Alice? Oh, certainement, répondit d'une voix douce et distraite la jeune femme montée sur une chaise, en train de cueillir des glycines et des verdures pour un bouquet de table. Deschelette continua. Il n'y a pas de rupture entre nous, à peine une quitterie. Nous avons fait un bail de 2 mois à passer ensemble. Le dernier jour, on se sépara sans désespoir et sans surprise. Moi, je retournerai à Ispahan, je viens de retenir mon sleeping, et Alice rentrera dans son petit appartement de la rue La Bruyère, qu'elle a toujours gardé. 3e au-dessus de l'entresol, tout ce qu'il y a de plus commode pour se fiche par la fenêtre. En disant cela, la jeune femme souriait, rousse et lumineuse dans le jour tombant, sa lourde grappe de fleurs mauves à la main. Mais l'accent de sa parole était si profond, si grave, que personne ne répondit. Le vent fraîchissait, les maisons d'en face semblaient plus hautes. « Allons nous mettre à table !» cria le colonel. « Et disons des choses folâtres !»« Oui, c'est cela, gode amus igitur, amusons-nous pendant que nous sommes jeunes, n'est-ce pas, Caudal ?» dit la Gournerie avec un rire qui sonnait faux. Jean, quelques jours après, passait de nouveau rue de Rome. Il trouvait l'atelier fermé, le grand rideau de coutil descendu sur la vitre, un silence morne des caves jusqu'à la toiture, en terrasse. Deschelette était partie à l'heure indiquée, le bail fini. Et lui pensait, c'est beau de faire ce qu'on veut dans l'existence, de gouverner sa raison et son cœur. Aurais-je jamais ce courage ? Une main se posa sur son épaule. « Bonjour, Gossin !» Deschelette l'air fatigué, plus jaune et plus froncé que d'habitude, lui expliqua qu'il ne partait pas encore, retenu à Paris par quelques affaires, et qu'il habitait le Grand Hôtel, l'atelier lui faisant horreur depuis cette histoire épouvantable. « Quoi donc ?»« Ah, c'est vrai, vous ne savez pas. »« Ben, Alice est morte. Elle s'est tuée. »« Attendez-moi que je regarde si j'ai des lettres. » Il revint presque aussitôt, et tout en faisant sauter des bandes de journaux d'un doigt nerveux, il parlait sourdement comme un somnambule, sans regarder Gossin qui marchait près de lui. « Oui, tué, jeté par la fenêtre, comme elle avait dit le soir, vous étiez là. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je ne savais pas, je ne pouvais pas me douter. Le jour où je devais partir, elle me dit d'un air tranquille, « Emmène-moi, Deschelettes, ne me laisse pas seul, je ne pourrais plus vivre sans toi. » Ça me faisait rire. Mais voyez-vous, avec une femme là-bas, chez ces Kurdes, le désert, les fièvres, les nuits de bivouac. Et à dîner, elle me répétait encore, « Je te gênerai pas, tu verras comme je serai gentille. » Puis, voyant qu'elle me faisait de la peine, elle n'a plus insisté. Après, nous sommes allés aux variétés dans une baignoire, tout cela convenu d'avance. Elle paraissait contente, me tenait la main tout le temps et murmurait « Je suis bien ». Et comme je partais dans la nuit, je la ramenais chez elle en voiture. Mais nous étions tristes, tous deux, sans parler. Elle ne me dit même pas merci pour un petit paquet que je lui glissais dans la poche, de quoi vivre tranquillement un an ou deux. Arrivée rue La Bruyère, elle me demande de monter. Oh, je ne voulais pas. Je t'en prie, jusqu'à la porte seulement. Mais là, je tins bon, je n'entrais pas. Ma place était retenue, mon sac fait, puis j'avais trop dit que je partirais. En descendant, le cœur un peu gros, j'entendais qu'elle me criait quelque chose comme « Plus vite que toi !» Mais je ne compris qu'en bas, dans la rue. « Oh !» Il s'arrêta, les yeux à terre, devant l'horrible vision que le trottoir lui présentait maintenant à chaque pas, cette masse inerte et noire qui râlait. « Oh, elle est morte 2 heures après, sans un mot, sans une plainte. » Me fixant de ses prunelles d'or. Souffrait-elle? M'a-t-elle reconnu? Nous l'avions couchée sur son lit, tout habillée. Une grande mantille de dentelle enveloppait la tête d'un côté pour cacher la blessure du crâne. Très pâle, avec un peu de sang sur la tempe, elle était encore jolie, si douce. Mais comme je me penchais pour essuyer cette goutte de sang qui revenait toujours inépuisable, son regard m'a semblé prendre une expression indignée et terrible, une malédiction muette que la pauvre fille me jetait. Aussi, qu'est-ce que ça me faisait de rester quelque temps encore, ou de l'emmener avec moi, prête à tout, si peu gênante? Non, l'orgueil... l'entêtement d'une parole dite. Eh bien, je n'ai pas cédé. Et elle est morte. Morte de moi qui l'aimais pourtant. Il se montait, parlait tout haut, suivi de l'étonnement des gens qu'il coudoyait en descendant la rue d'Amsterdam. Et Gossin, passant devant son ancien logis, dont il apercevait le balcon, la véranda, faisait un retour vers Fanny et leur propre histoire, se sentait pris d'un frisson pendant que Deschelettes continuait. Je l'ai conduite à Montparnasse, sans amis, sans famille. J'ai voulu être seul à m'occuper d'elle. Et depuis, je suis là, pensant toujours à la même chose, ne pouvant me décider à partir avec cette idée obsédante, et fuyant ma maison, j'ai passé 2 mois si heureux à côté d'elle. Je vis dehors, je cours, j'essaie de me distraire, d'échapper à cet œil de morte qui m'accuse sous un fil de sang. Et s'arrêtant, buté à ce remords avec deux grosses larmes qui glissaient sur son petit nez camard si bon, si épris de la vie, il disait « Voyons, mon ami, je suis pourtant pas méchant. C'est un peu fort tout de même que j'ai fait ça. » Jean essayait de le consoler, rejetant tout sur un hasard, un mauvais sort. Mais Deschelettes répétait en secouant la tête, les dents serrées. « Non, 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 je ne me pardonnerai jamais. Je voudrais me punir. » Ce désir d'une expiation ne cessa de le hanter. Il en parlait à tous ses amis, à Gossin, qu'il venait prendre la sortie du bureau. Ben « Allez-vous-en donc, Deschelettes, voyager, travailler, ça vous distraira !» lui répétaient Caudal et les autres, un peu inquiets de son idée fixe, de cet acharnement, à leur faire répéter qu'ils n'étaient pas méchants. Enfin, un soir, soit qu'il eût voulu revoir l'atelier avant de partir, ou qu'un projet très arrêté d'en finir avec sa peine l'y eût amené, il rentra chez lui, et au matin, des ouvriers descendant des faubourgs à leur travail le ramassèrent, le crâne en deux, sur le trottoir devant sa porte, mort du même suicide que la femme, avec les mêmes affres, le même fracassement d'un désespoir jeté à la rue. Dans l'atelier, en demi-jour, une foule se pressait, d'artistes, de modèles, de femmes de théâtre, tous les danseurs, tous les soupeurs des dernières fêtes. C'était un bruit piétiné, chuchoté, une rumeur de chapelle sous la flamme courte des cierges. On regardait à travers les lianes, les feuillages, le corps exposé dans une étoffe de soie ramagée de fleurs d'or, coiffé en turban pour la hideuse plaie de la tête, et tout de son long étendu, les mains blanches en avant, qui disaient l'abandon, le déliment suprême, sur le divan bas ombragé de glycine, où Gossin et sa maîtresse s'étaient connus là, la nuit du bal. Chapitre 10. On en meurt donc quelquefois de ces ruptures. Maintenant, quand ils se disputaient, Jean n'osait plus parler de son départ, il ne criait plus, exaspéré, « Heureusement, ça va finir !» Elle n'aurait eu qu'à répondre, « C'est bien, va-t'en, moi je me tuerai, je ferai comme l'autre. » Et cette menace qu'il croyait comprendre dans la mélancolie de ses regards et des airs qu'elle chantait dans la songerie de ses silences, le troublait jusqu'à l'épouvante. Cependant, il avait passé l'examen de classement qui termine pour les attachés consulaires le stage ministériel. Reçu dans un bon rang, on allait le désigner pour un des premiers postes libres. Ce n'était plus qu'une affaire de semaines, de jours. Et autour d'eux, dans cette fin de saison au soleil de plus en plus bref, tout se hâtait aussi vers les changements de l'hiver. Un matin, Fanny, ouvrant la fenêtre devant le premier brouillard, s'écriait « Tiens, les hirondelles sont parties !» L'une après l'autre, les maisons bourgeoises du pays fermaient leurs persiennes. Sur la route de Versailles, des voitures d'éménagement se succédaient, de grands omnibus de campagne chargés de paquets, avec des panaches de plantes vertes sur la plateforme, pendant que les feuilles s'en allaient par tourbillons, roulaient comme les nuages en fuite sous le ciel bas, et que les meubles montaient dans les champs dégarnis. Derrière le verger, dépouillé, rapetissé par le manque de verdure, les chalets fermés, les séchoirs des blanchisseries aux toits rouges, se massaient en paysages tristes, et de l'autre côté de la maison, la voie ferrée mise à nu déroulait tout le long des bois en grisaille sa noire ligne voyageuse. Quelle cruauté de la laisser là toute seule dans cette tristesse des choses. Il sentait son cœur défaillir d'avance. Jamais il n'aurait le courage de l'adieu. C'était bien là-dessus qu'elle comptait, l'attendant à cette minute suprême, et jusque-là tranquille, ne parlant de rien, fidèle à sa promesse de ne pas mettre d'entrave à ce départ de tout temps prévu et consenti. Un jour, il entra avec cette nouvelle. « Je suis nommé. Ah, et où donc ?» Elle questionnait, l'air indifférent, mais les lèvres et les yeux décolorés, une telle crispation sur tout le visage qu'il ne la fit pas plus longtemps attendre. « Non, 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 pas encore, j'ai cédé mon tour à Edouin. Ça nous donne au moins 6 mois. » Ce fut un débordement de larmes, de rires, de baisers fous qui balbutiaient. « Merci, merci. Oh, quelle bonne vie je vais te faire maintenant. C'était ça, vois-tu, qui me rendait méchante, cette idée de départ. » Elle allait s'y préparer mieux, s'y résigner petit à petit. Et puis dans 6 mois, ce ne serait plus l'automne avec le contre-coup de ces histoires de mort. Elle tint parole, plus de nerfs, plus de querelles. Et même pour éviter les ennuis causés par l'enfant, elle se décidait à le mettre en pension à Versailles. Il ne sortait que le dimanche, et si ce nouveau régime ne modifiait pas encore sa nature rebelle et sauvage, du moins, il lui apprenait l'hypocrisie. On vivait au calme, les dîners avec les Zetema savourés sans orage, et le piano rouvert pour les partitions favorites. Mais au fond, Jean restait plus troublé, plus perplexe que jamais, se demandant où le mènerait sa faiblesse, songeant parfois à renoncer au consulat, passé dans le service des bureaux. C'était Paris, le bail du ménage indéfiniment renouvelé, mais tout le rêve de sa jeunesse à bas et le désespoir des siens, la brouille certaine avec son père qui ne lui pardonnerait pas cet abandon, surtout lorsqu'il en saurait les causes. Et pour qui ? Ben, pour une créature vieillie, fanée, qu'il n'aimait plus. Il en avait eu la preuve en face de ses amants. Quel maléfice tenait donc dans cette vie à deux ? Comme il montait en wagon un matin au dernier jour d'octobre, un regard de jeune fille levé vers le sien lui rappela tout à coup sa rencontre du bois, cette grâce radieuse de femme-enfant dont le souvenir l'avait poursuivi pendant des mois. Elle portait la même robe claire que le soleil tachait si joliment sous les branches, mais recouverte d'un grand manteau de voyage. Et dans le wagon, des livres, un petit sac, un bouquet de grands roseaux, et des dernières fleurs disaient le retour vers Paris, la fin de la villégiature. Elle aussi l'avait reconnue, d'un demi-sourire frissonnant sur la limpidité d'eau de source de ses yeux, et ce fut pendant une seconde l'entente inexprimée de la même pensée chez ces deux êtres. « Comment va votre mère, monsieur d'Armandie ?» demanda tout à coup le vieux bouchereau, que Jean ébloui n'avait pas vu d'abord dans son coin, enfoui et lisant sa pâle figure inclinée. Jean donna des nouvelles, très touché qu'on se souvint des siens et de lui, bien plus ému encore quand la jeune fille s'informa des deux petites Bessonnes qui avaient écrit à son oncle une si gentille lettre pour le remercier des soins donnés à leur mère. Elle les connaissait, oh, cela le remplit de joie. Puis comme il était, paraît-il, d'une sensibilité extraordinaire ce matin-là, il devint triste aussitôt en apprenant qu'il rentrait à Paris, que Bouchereau allait prendre son cours de semestre à l'école de médecine. Il n'aurait plus la chance de la revoir. et les champs filant aux portières, splendides tout à l'heure, lui semblaient lugubres, éclairés d'une lumière d'éclipse. Le train siffla longuement, on arrivait. Il salua, les perdit, mais à la sortie de la gare, ils se retrouvèrent, et Bouchereau, dans le tumulte de la presse, l'avertit qu'à partir du jeudi suivant, il restait chez lui, place Vendôme. Si le cœur lui disait une tasse de thé. Elle donnait le bras à son oncle, et il sembla à Jean que c'était elle qui l'invitait sans rien dire. Après avoir décidé plusieurs fois qu'il irait chez Bouchereau, puis qu'il n'irait pas, car à quoi bon se donner des regrets inutiles. Il prévint pourtant chez lui qu'il y aurait bientôt une grande soirée au ministère à laquelle il lui faudrait assister. Fanny visitait son habit, lui faisait repasser les cravates blanches, et brusquement le jeudi soir, il n'eut plus la moindre envie de sortir. Mais sa maîtresse le raisonnait sur la nécessité de cette corvée, se reprochant de l'avoir trop absorbé et gardé pour elle en égoïste, et elle le décidait, achevait de l'habiller avec des jeux tendres, retouchait le nœud de sa cravate, le pli de ses cheveux, riait parce que ses doigts sentaient la cigarette qu'elle reprenait et posait sur la cheminée à toute minute, et que cela ferait faire la grimace aux danseuses. Et de la voir très gaie, très bonne, il avait le remords de son mensonge, serait volontiers resté près d'elle au coin du feu si Fanny ne l'eût forcé. « Mais je veux, il le faut !» tendrement poussé dehors dans la nuit du chemin. Il était tard quand il rentra. Elle dormait, et la lampe allumée sur ce sommeil de fatigue lui rappela une rentrée pareille, 3 ans passés déjà, après les révélations terribles qu'on venait de lui faire. Comme il s'était montré lâche alors. Par quelle aberration ce qui devait briser sa chaîne l'avait-il rivé plus solidement? Une nausée lui monta aux lèvres de dégoût. La chambre, le lit, la femme lui faisaient également horreur. Il prit la lumière, l'emporta dans la pièce à côté, doucement. Il désirait tant être seul pour songer à ce qui lui arrivait. Oh, rien, presque rien. Il aimait. Il y a dans certains mots que nous employons ordinairement un ressort caché qui tout à coup les ouvre jusqu'au fond, nous les explique dans leur intimité exceptionnelle. Puis le mot se replie, reprend sa forme banale et roule insignifiant, usé par l'habitude et le machinal. L'amour est un de ces mots-là. Ceux pour qui sa clarté s'est une fois traduite entière comprendront l'angoisse délicieuse où vivait Jean depuis une heure sans bien se rendre compte de ce qu'il éprouvait. Là-bas, place Vendôme, dans ce coin de salon où ils étaient restés longtemps à causer ensemble, il ne sentait rien qu'un grand bien-être, un charme doux qui l'enveloppait. Ce n'est qu'une fois dehors, la porte retombée sur lui, qu'il avait été saisi d'une allégresse folle, puis d'une défaillance à croire que toutes ses veines s'ouvraient. Mais qu'est-ce que j'ai, mon Dieu ? Et le Paris qu'il traversait pour revenir lui paraissait tout nouveau, féerique, élargi, radieux. Oui, à cette heure où les bêtes de nuit sont lâchées et circulent, où la vase des égouts remonte, s'étale, grouille sous le gageuse, lui, l'amant de Sappho, curieux de toutes les débauches, le Paris que peut voir la jeune fille revenant du bal avec des airs de valse plein la tête qu'elle redit aux étoiles sous les blancheurs de sa parure, ce Paris chaste, baigné de lune claire, où s'éclosent les âmes vierges, c'est ce Paris qu'il avait vu. Et tout à coup, comme il montait le large escalier de la gare, si près du retour vers le mauvais gîte. Il se surprenait à dire tout haut « Mais je l'aime, je l'aime !» Et c'est ainsi qu'il l'avait appris. « Tu es là, Jean, que fais-tu donc ?» Fanny s'éveille en sursaut, effrayée de ne pas le sentir à côté d'elle. Il faut venir l'embrasser, mentir, raconter le bal du ministère, dire s'il y avait de jolies toilettes et avec qui il a dansé. Mais pour échapper à cette inquisition, surtout aux caresses qu'il redoute, tout imprégné du souvenir de l'autre, il invente un travail pressé, les dessins des thémas. « Il n'y a plus de feu, tu vas avoir froid. »« Non, 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 non. Au moins laisse la porte ouverte, que je vois ta lampe. » Il doit jouer son mensonge jusqu'au bout, installer la table, les épures. Puis assis immobile, retenant son souffle, il songe, il se rappelle. Et pour fixer son rêve, le raconte à Césaire dans une longue lettre, pendant que le vent de nuit remue les branches qui craquent dans un froissement de feuilles, que les trains se succèdent en grondant, et que la balue, troublée par la lumière, s'agite dans sa petite cage, sautille d'un perchoir à l'autre avec des cris hésitants. Il dit tout, la rencontre dans les bois, le wagon, son émotion singulière à l'entrée de ses salons, qu'il avait lu si lugubre et tragique le jour de la consultation, des chuchotements furtifs dans les portes, de tristes regards échangés de chaise à chaise, et qui ce soir s'ouvraient animés et bruyants en une longue enfilade lumineuse. Bouchereau lui-même n'avait plus sa physionomie dure, cet œil froid, fouilleur et déconcertant, sous ses gros sourcils d'étoupe, mais une expression reposée, paternelle de bonhomme, qui consent à ce que l'on s'amuse chez lui. Tout à coup, elle est venue vers moi, je n'ai plus rien vu. Mon amie, elle s'appelle Irène, elle est jolie, l'air bon, les cheveux de ce brun d'or et des anglaises, une bouche d'enfant toujours prête à rire. Au pas, ce rire sans gaieté, qui agace chez tant de femmes, non, une vraie expansion de jeunesse et de bonheur. Elle est née à Londres, mais son père était français, elle n'a pas d'accent du tout. Seulement une adorable façon de prononcer certains mots, de dire « oncle » qui, chaque fois, met une caresse dans les yeux du vieux Bouchereau. Il l'a prise avec lui pour soulager la famille de son frère, qui est nombreuse, et remplacer la sœur d'Irène, l'aînée mariée depuis 2 ans, à son chef de clinique. Mais elle, voilà, les médecins ne lui vont guère. Comme elle m'a amusé avec la bêtise de ce jeune savant exigeant de sa fiancée, sur toute chose, un engagement formel et solennel, de léguer les 2 corps à la Société d'anthropologie. Elle, oh, c'est un oiseau voyageur. Elle aime les bateaux, la mer, la vue d'un beau pré tourné au large lui prend le cœur. Elle me disait tout cela librement, en camarade, bien miss d'allure, malgré sa grâce parisienne. Et je l'écoutais, ravi de sa voix, de son sourire, de la conformité de nos goûts, d'une certitude intime que le bonheur de ma vie était là, à côté de ma main, et que je n'avais qu'à le saisir, l'emporter loin, bien loin, où m'enverrait la carrière aventureuse. Viens donc te coucher, mamie. Il tressaute, s'arrête, cache instinctivement la lettre qu'il est en train d'écrire. Oh, tout à l'heure, dors, dors. Il lui parle avec colère, et le dos tendu écoute le sommeil revenir dans cette respiration de femme, car ils sont très près l'un de l'autre et si loin. Quoi qu'il arrive, ce sera la délivrance que cette rencontre et cet amour. Tu connais ma vie, tu as compris, sans que nous en parlions jamais, qu'elle est la même qu'autrefois, que je n'ai pas pu m'affranchir. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que j'étais prêt à sacrifier fortune, avenir, tout, à cette habitude fatale où je m'enlisais un peu plus chaque jour. Maintenant, j'ai trouvé le ressort, le point d'appui qui me manquait, et pour ne plus laisser de recours à ma faiblesse, je me suis juré de ne retourner là-bas que libre et séparé. À demain, l'évasion. Ce ne fut ni le lendemain ni le jour suivant. Il fallait un moyen pour s'évader, un prétexte, le dénouement d'une querelle où l'on crie « Je m'en vais » pour ne plus revenir. Et Fanny se montrait douce et gaie comme aux premiers temps illusionnés du ménage. Écrire « C'est fini » sans plus d'explication? Mais cette violente ne se résignerait pas ainsi, le relancerait, s'acharnerait jusqu'à la porte de son hôtel, de son bureau. Non, mieux vaudrait l'attaquer de face, la convaincre de l'irrévocable, du définitif de cette rupture, et sans colère, comme sans pitié, lui énumérer les causes. Mais avec ses réflexions, une peur lui revint du suicide d'Alice Doré. Il y avait devant chez eux, de l'autre côté du pavé, une ruelle en pente conduisant à la voie et fermée d'une barrière. Les voisins prenaient par là les jours de presse pour suivre les rails jusqu'à la gare. Et l'imagination du méridional voyait, après leur scène de rupture, sa maîtresse s'échapper sur la route, joindre la traverse et se jeter sous les roues du train qui l'emportait. Mais cette crainte l'obsédait au point que la seule pensée de cette barrière battante entre deux murs chargés de lierre lui faisait reculer l'explication. Encore, s'il avait eu là un ami, quelqu'un pour la garder, l'assister à cette première crise. Mais, terrés dans leur collage comme des marmottes, ils ne connaissaient personne. Et ce n'étaient pas les Hetema, ces monstrueux égoïstes luisants et noyés de graisse, bestialisés encore par l'approche de leur hivernage d'esquimaux, que la malheureuse aurait pu appeler au secours de son désespoir et de son abandon. Et il fallait rompre pourtant, et rompre vite. Malgré sa promesse à lui-même, Jean était retourné deux ou trois fois place Vendôme, de plus en plus épris. Et quoiqu'il n'eût rien dit encore, l'accueil à bras ouverts du vieux Bouchot, l'attitude d'Irène où se mêlait, dans la réserve, une tendresse, une indulgence, et comme l'attente émue de la déclaration, tout l'avertissait de ne plus tarder. Puis le supplice de mentir, les prétextes qu'il inventait pour Fanny, et l'espèce de sacrilège d'aller des baisers de Sappho à la cour discrète, balbutiante.